L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, quand la précision horlogère suisse s'en mêle les chronomètres, eh bien ça a provoqué une belle pagaille lors de l'épreuve de Coupe du Monde à ski à Crans-Montana. En France, un grand magasin de sport qui renonce à vendre un hijab de course. Le foulard adapté à la pratique du sport a été jugé trop polémique. En Belgique, l'ordre des médecins qui demande aux professionnels de santé de ne plus délivré d'attestation de virginité. Au Canada, un nouvel épisode du scandale judiciaire impliquant le géant SNC-Lavalin. Et bien voilà qu'une ancienne ministre dénonce des pressions du Premier ministre et de son entourage. Enfin, qui pour administrer l'archipel des Chagos dans l'océan Indien? La Cour internationale de justice a tranché. Le Royaume-Uni doit y renoncer au profit de l'île Maurice. Voilà pour l'actualité francophone. Bienvenue à tous. Au Sénégal, le président sortant Macky Sall vient d'être réélu pour un second mandat, Marie-Pierre Olfan.
Macky Sall, 56 ans, avait promis de passer au premier tour. Objectif atteint, selon les chiffres annoncés, il est réélu avec 58,27% des voix. Une victoire contestée immédiatement par l'opposition et notamment par Idriss Asek, arrivé en deuxième position. Macky Sall se présentait au nom d'une large coalition, comprenant notamment le Parti Socialiste Sénégalais. Il a bénéficié de gros moyens pour faire campagne et a été appuyé aussi par une véritable machine de communication. Sa réélection a aussi été facilitée par l'absence de deux de ses rivaux de poids, Karim Wade et Khalifa Sall, écartés de la course à la présidentielle pour condamnation judiciaire. Dans une interview donnée en novembre dernier, Macky Sall n'avait pas exclu de les amnistier en cas de victoire.
À bientôt 75 ans, le spationaute suisse Claude Nicollier reprend du service pour le compte du département de la Défense, Pierre Anchoffat.
Rendu célèbre par ses missions à bord de plusieurs navettes spatiales, notamment pour aller réparer le télescope Hubble, Claude Nicollier vient en effet d'être mandaté par la conseillère fédérale Viola Amert. Il doit évaluer le projet d'acquisition d'un nouvel avion de combat. Sa probable caution pour cet investissement qui se chiffre en milliards sera un atout non négligeable dans la campagne de votation à venir. Moins pour l'expérience du pilote militaire que grâce à la popularité et à la sympathie qu'inspire Claude Nicollier.
À la une en France cette semaine, le fumeur de cigarettes, toujours plus taxé. Depuis quelques heures, le prix du paquet de cigarettes a atteint en moyenne 8,80 €. C'est une augmentation liée évidemment à la fiscalité française que le gouvernement espère de plus en plus dissuasive. Et l'objectif, dans un an et demi, est de faire payer ce paquet de cigarettes à 10 €. Une mesure fiscale, mais aussi une mesure sanitaire pour détourner les Français de la cigarette. Et ça marche. En un an, les ventes de cigarettes en France ont chuté de près de 10%. Il y a 1 million de fumeurs en moins que l'année dernière. La Belgique, Nathalie De Vic, la Belgique s'est émue des larmes de l'athlète Nafissatou Thiam.
Nafi, figure de proue de l'athlétisme, dévastée, racontant qu'elle a failli être exclue d'une compétition par sa propre fédération parce que le nom du sponsor principal ne figurait pas à sa juste place sur son maillot. La brutalité de la sanction et la précipitation dans laquelle a failli être prise cette décision ont choqué, preuve de l'amateurisme qui menace chez nous le sport de haut niveau, quand des professionnels dépendent ainsi du bon vouloir de leurs dirigeants. L'affaire a suscité une telle polémique que la Ligue belge s'est empressé d'adopter une nouvelle convention où il n'est plus question désormais ni d'amende ni de droit à l'image.
Benoît Audet au Canada, gros plan cette semaine sur un joueur de hockey sur glace.
Oui, il s'appelle Jonathan Diaby, il est noir et il joue au sein d'une équipe de hockey semi-professionnelle au nord de Montréal. Jonathan Diaby et sa famille ont été victimes d'injures racistes au cours d'un match disputé la semaine dernière. Les autorités de la Ligue ont annoncé des mesures pour tenter d'éliminer ce genre de geste, sans toutefois punir l'équipe dont les partisans ont été mis en cause.
C'est donc un coup dur pour la légendaire précision helvétique. Le classement de la descente d'âme de Coupe du Monde à Crans-Montana en Valais a dû être corrigé à deux reprises en raison d'un chronométrage déficient, Pierre Anchoffat.
Imaginez la scène, vous êtes dans l'air d'arrivée ou alors derrière votre écran. Votre favorite amorce la dernière courbe, elle semble dans les temps, elle franchit la ligne d'arrivée. Et stupeur, le chronomètre continue de tourner. Impossible d'être sûr de son rang. Samedi dernier, 4 Suissesses sont ainsi victimes de la panne. Je vous passe les détails sur l'interruption de la course pour remettre en place le système. Mais le classement restera provisoire durant plus de 2 heures.
Oui, pour ensuite être corrigé.
Exactement, pour le plus grand bonheur de la Suissesse Lara Goud-Berami, qui monte sur le podium, sauf que coup de théâtre trois jours plus tard, lorsqu'elle a exploité le chronométrage manuel de sécurité, l'entreprise Swiss Timing s'est trompée. Elle a déduit des centièmes au lieu de les ajouter. Voilà Lara Gout contrainte de redescendre du podium. Directeur de Swiss Timing, Alain Zobrist est pour le moins emprunté.
C'est très malheureux. On est désolé. On s'est manifesté auprès des skieuses déjà samedi et on fait tout pour afin que ces erreurs comme ça ne se reproduisent plus dans le futur.
Un très gros couac qui ne devrait pas avoir de conséquences sur le contrat avec la Fédération internationale de ski. On ne peut sans doute pas en dire autant pour l'image de Swiss Timing et de sa maison mère, le groupe horloger Swatch.
Il y a eu débat cette semaine en France pour ou contre la vente du hijab de course dans les magasins Decathlon. C'est un foulard qui couvre la tête jusqu'au cou. Polémique donc avec d'un côté ceux qui prônent la liberté pour les femmes de faire du sport habillées comme elles le souhaitent et de l'autre ceux qui dénoncent un signe religieux ostentatoire, un symbole de la soumission de la femme par l'homme. Protestation en France par exemple de la Ligue nationale du droit des femmes et débat dans la classe politique. À droite par exemple, l'idée passe mal. Écoutez ce qu'en dit la députée Les Républicains, Valérie Boyer.
Je trouve ça triste. Moi, je pense à ces femmes iraniennes qui risquent leur vie tous les vendredis en enlevant leur voile. L'appât du gain ne justifie pas tout. C'est pas parce que Decathlon doit courir derrière Nike qu'on doit brader dans une entreprise française la liberté et la dignité des femmes. C'est comme un oxymore quand on entend dire que Decathlon fait ça pour la promotion de la femme. C'est exactement l'inverse. C'est une sorte de provocation sur notre liberté.
Alors pour ou contre ce hijab de sport, le débat a divisé au sein même du gouvernement. Pour la ministre de la Santé, c'est une vision de la femme qu'elle ne partage pas, tandis que sa collègue des sports, elle, semble plutôt favorable à la vente de ce hijab en France. Enfin, chez Decathlon, on a d'abord expliqué que ce foulard de course était un pied de nez à tous les extrémismes qui voudraient que les femmes ne puissent pas pratiquer leur sport. Mais face à l'ampleur de cette polémique, la grande marque de distribution a finalement renoncé à mettre ce hijab en vente dans les magasins français. En Belgique, Nathalie De Vic, l'Ordre des médecins demande aux professionnels de la santé de ne plus délivrer d'attestation de virginité.
Oui, une pratique pas si courante que cela, mais qui existe encore chez nous plusieurs cas par mois, plaçant certains médecins, comme ce chef du service gynécologie d'une grande clinique bruxelloise, Frédéric Buxan, face à des dilemmes souvent compliqués vu les répercussions familiales.
Ce sont souvent des patientes, des femmes de plus de 20 ans qui viennent justement avant un mariage religieux où la famille ou la belle-famille demande un certificat de virginité. Mais en face de nous, on a une patiente, on a une femme qui est parfois dans une certaine détresse et qui est parfois exposée à subir par après des violences. Et donc c'est pas toujours facile de répondre en âme et conscience à une demande favorablement ou pas favorablement.
Pour d'autres, cela fait déjà une dizaine d'années qu'il n'est plus question de recourir à ces pratiques jugées discriminantes, dégradantes, souvent vécues comme des agressions par les femmes qui s'y voient contraintes et qui plus est, sans fondement, estime ce gynécologue d'une autre clinique réputée, Martin Caillet.
Il n'y a pas de pertinence médicale et scientifique à faire cet examen puisqu'on peut être jamais sûr de ce qu'on voit. Ensuite, ce sont souvent des examens qui sont demandés par des tiers, donc sur le plan éthique, on estime que les personnes ont le droit de disposer de leur corps et de faire ce qu'elles veulent de leur sexualité et donc être vierge ou non, si elles le souhaitent.
L'Organisation mondiale de la santé avait d'ailleurs épinglé à ce sujet notre pays, parmi d'autres, en octobre dernier. L'Ordre belge des médecins a donc décidé de suivre ces recommandations en demandant aux praticiens de ne plus délivrer ce genre de certificat. Dans la même logique que ce qui touche d'ailleurs aux reconstructions de l'hymen, cette membrane qui seront, lors des premiers rapports sexuels, pratiques tout autant réprouvées.
Qui pour administrer l'archipel des Chagos dans l'océan Indien ? La Cour internationale de justice à La Haye a donné raison à l'île Maurice contre la Grande-Bretagne, Marie-Pierre Olfan.
Oui, les Chagos, c'est cet archipel d'une cinquantaine d'îles dans l'océan Indien qui est resté sous administration britannique après l'indépendance de l'île Maurice en 1968. Archipel qui accueille aujourd'hui une base militaire des États-Unis sur l'île de Diego Garcia. En juin dernier, déjà un vote historique à l'ONU à New York avait donné raison à Maurice aux dépens de la Grande-Bretagne. L'avis rendu cette semaine par la Cour internationale de justice est sans appel. Le détachement des Chagos du territoire de Maurice par les Britanniques en 1965 est un acte illégitime qui dure. C'est ce qu'ont dit les juges à l'unanimité, moins une voix. Pour eux, le Royaume-Uni est tenu dans les plus brefs délais de mettre fin à son administration de l'archipel des Chagos.
Alors Marie-Pierre, la décision de la Cour de la Haye est certes non contraignante, mais elle reste tout de même importante pour l'île Maurice.
Oui, il faut d'abord dire que sur place, cette décision a été suivie en direct sur toutes les chaînes et elle a été accueillie par une explosion de joie chez les Chagossiens expulsés de ce territoire entre 1967 et 1973. Et donc même si cet avis n'est que consultatif, vous l'avez dit, il va permettre à Maurice de rebondir. Le Premier ministre mauricien a d'ailleurs déjà appelé Londres à rouvrir les négociations. Londres qui a tenu à rappeler que la base militaire de Diego Garcia permettait, je cite, de défendre le monde entier contre la menace terroriste et que cet avis rendu à La Haye n'était en aucun cas un jugement.
Le Canada, avec ce témoignage choc de l'ancienne ministre de la Justice. Elle avait été convoquée devant un comité de la Chambre des communes dans le cadre de l'affaire SNC-Lavalin. C'est une affaire qui ne cesse d'embarrasser le gouvernement Trudeau. Et Benoît Audet, ce témoignage a fait pas mal de bruit.
Oui, c'est la première fois que Jody Wilson-Raybould s'exprimait publiquement sur cette affaire qui a entraîné sa démotion et finalement sa démission du cabinet Trudeau. L'ancienne ministre de la Justice et procureure générale a dit en somme qu'elle avait été la cible de pressions constantes et soutenues pour éviter que la firme d'ingénierie SNC-Lavalin ne subisse un procès criminel.
Et ces pressions ne venaient pas de n'importe qui.
Non, 11 personnes en tout, dont le premier ministre Justin Trudeau lui-même, qui aurait demandé à sa ministre de trouver une solution pour SNC-Lavalin. Ces pressions se sont poursuivies sur une période de 4 mois à la fin de 2018.
Finalement, que répond le premier ministre Trudeau?
Il se dit en désaccord avec la version de son ancienne ministre et il continue de se défendre avec vigueur. On l'écoute.
Nous avons toujours défendu et cherché à protéger les emplois au Canada, mais nous allons toujours faire ça dans le respect des normes et des règles en place.
L'opposition conservatrice réclame la démission du premier ministre. Bref, ce feuilleton politique a connu de nombreux rebondissements et risque de se poursuivre au cours des prochaines semaines.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.